Mais ça vient d'où, cette règle-là? Pourquoi qu'on peut pas casser une œuvre d'art?
On dit que la critique, c'est l'art de juger une œuvre, mais comment on peut évaluer le travail de quelqu'un sans être malveillant ou complaisant?
Moi, je me rappelle, j'ai refusé qu'Idole instantanée soit à la une. Je dis, pas question que je fasse les entrevues, c'est une sombre merde.
Est-ce que la critique peut avoir le droit de vie ou de mort sur un film?
C'est comme dans l'air du temps d'être dans le... Je cherche le mot, là,
d'être bienveillant.
Avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui, trois invités. Marc Assivi, qui est chroniqueur à La Presse. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Manon Dumais, qui est critique de cinéma à La Presse, mais aussi anciennement au Devoir et Feu Journal Voir. Bonjour, Manon.
Bonjour, Catherine.
Et Denis Côté, qui est cinéaste, qu'on connaît pour les films Curling, Bestiaire, Vic et Flo ont vu un ours, Boris en Béatrice, Un été comme ça, Mademoiselle Kenopsia. Et ce qui est particulier dans le cas de Denis Côté, c'est que Denis a été aussi critique de cinéma au journal Ici. Bonjour, Denis Côté.
Bonjour.
Tu as vraiment les deux statuts, fait que tu vas être capable de trancher d'un côté comme de l'autre aujourd'hui. T'imagines-tu le pouvoir que tu as?
On peut dire ça, mais c'est important de dire que c'est ma vieille vie quand même, là.
C'est ta vieille vie, mais moi, je suis sûre que ça reste ancré.
Un peu.
Tiens, je te pose la question. Est-ce que ça reste toujours derrière toi, dans ton esprit, quand tu tournes un film?
Plus ou moins, mais ce qui reste, parce que ça date quand même de 17 ans, là, je crois pas avoir écrit un papier sur un film depuis au moins 15 ans, ce qui reste, c'est un espèce de fond, là, un fond de casserole de cette époque-là, mais surtout, ce qui reste, c'est de pouvoir, quand je sors un film, c'est d'affronter la critique, qu'elle soit négative ou positive. Je suis beaucoup plus zen avec ça, parce que dans ma vieille vie, c'est un métier que j'ai pratiqué, c'est un métier que je respecte. Donc, ça m'atteint moins à la fin d'un film.
Là. Et t'étais pas toujours tendre, on se souvient de Nouvelle-France qui a marqué les esprits à
j'étais
l'époque.
Pas toujours tendre. Donc, aujourd'hui, si je reçois des critiques assassines qui sont pas tendres, ben, tu sais, c'est pas... je suis pas dans l'impulsion de répondre à la critique ou de devenir aigri ou amer. C'est une chose que j'ai fait en 10 fois pire, donc je suis plus zen avec la chose. Là,
Marc et Manon, je suis curieuse de savoir comment vous le voyez, le métier de critique.
Bien, c'est plusieurs choses. Hein. C'est à la fois, nous, on travaille pour un journal grand public, donc on s'adresse à la masse. On n'est pas dans une revue spécialisée. On n'est pas dans le décortiquer un film sur 3 pages. Là. On fait des critiques qui sont malheureusement souvent très courtes, de plus en plus courtes. Je pense qu'à l'époque où Denis faisait de la critique, on avait un peu plus d'espace pour le faire. Et donc, il y a ce côté déjà... rempart contre la publicité, les producteurs qui veulent nous dire toujours que tout est un chef-d'œuvre. Donc, moi, je le vois aussi comme un rôle journalistique, comme n'importe quel journaliste dans n'importe quelle section. C'est-à-dire, bon, voici mon avis à moi, qui est évidemment très personnel, que j'ose dire peut-être, en tout cas, un avis professionnel, comme disait René Aumierois, là. Donc, j'en ai vu beaucoup. Je compare avec ce que j'ai déjà vu, mais voici mon bagage, voici qui je suis, un homme de 50 ans, hétéro, je ne sais quoi,
cisgenre,
tout ce que vous voulez, voilà. Et donc, c'est ça, oui, privilégié, ouais, ouais, c'est
oui,
ça, reconnaissance et privilège. Mais ce rempart, c'est-à-dire, voici un avis qui n'est pas payé par la production, qui n'est pas complaisant. Donc, pour moi, je m'adresse aux lecteurs, j'essaie de leur donner un avis le plus honnête possible sur une œuvre. Puis je trouve que c'est important d'avoir cette discussion sur l'art. C'est ce qui fait aussi vivre ces œuvres plus longtemps qu'un week-end à l'affiche, puis on n'en parle plus.
Là. Manon?
Que pourrais-je dire de plus? Bien, en fait, je dirais que c'est un métier qu'on pratique parce qu'on aime le cinéma et qu'on n'est pas là pour être aimé. Parce que des fois, on n'est pas toujours tendre. Moi, déjà, ça m'est arrivé au Voir, on me surnommait Manon One Star Dumais. Même quand c'est un film québécois, moi, ça m'est arrivé de donner 1 étoile. Et c'est pas parce que je suis une cinéaste frustrée. Oui, j'ai une formation de scénariste, mais moi, je suis devenue critique par accident. J'ai jamais rêvé d'être critique de cinéma, comme mon ex-collègue du Devoir, André Lavoie, par exemple. Mais je suis arrivée là par accident, et moi, j'aime me laisser porter par ces accidents-là, et ça fait plus de 20 ans que je suis critique de cinéma. J'ai eu un petit flou pendant lequel j'ai été aussi critique littéraire, critique de télé, critique de théâtre, de cirque, d'humour.
Critique.
Bref, j'étais couteau suisse, j'ai développé des compétences transversales. Mais on fait ça par amour du cinéma ou de la culture, parce que bon, parlons de la critique aussi au sens large. Et on est, comme Marc disait, des spectateurs professionnels. Puis moi, mon contrat, c'est pas avec le cinéaste ou le clown au cirque, là, c'est avec le lecteur. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai des relations avec les lecteurs, que ce soit ceux du Voir, du devoir de la presse. Et moi, mon contrat, c'est d'être honnête. Donc, je leur ferai pas croire qu'un film de Denis Arcand, par exemple, est brillant si moi, je le trouve médiocre. Je leur ferai pas croire non plus qu'un film est médiocre sous prétexte que j'aime pas la gueule du réalisateur alors que c'est brillant. Je vais laisser mes préjugés de côté, mes a priori au vestiaire. On ne peut pas être complètement objectif non plus. Il y a une part de subjectivité parce que moi, je suis une femme de 55 ans, hétérosexuelle, cisgenre, privilégiée, avec tout le bagage qui tripe sur le cinéma depuis à peu près l'âge de 5 ans. Là,
bon. Oui, puis après, il y a une certaine cohérence dans notre rapport avec le lecteur, c'est-à-dire, et même les cinéastes. Je pense que Denis, s'il m'a lu, il sait à peu près où je loge, il va deviner que peut-être je vais aimer plus un film qui parle de ça plutôt qu'un autre. Et puis, moi, ça m'arrive, hier encore, un lecteur me dit, moi, quand vous aimez quelque chose, j'y vais pas, puis quand vous détestez, c'est sûr que je vais aimer. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, on se pose à contrario de mes points de vue. Ça fait juste un peu la démonstration de « Bon, mais je suis pas en train de dire tout et son contraire tout le temps. » J'ai une espèce de ligne de pensée. Je peux y déroger, évidemment. Des fois, il y a quelque chose qu'on aime plus qu'autre chose. Puis ça peut être étonnant. J'aime pas beaucoup les comédies musicales, mais Les Parapluies de Cherbourg, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a touché.
Oui,
non, mais vraiment, ça m'a touché profondément. Et donc, c'est un peu ça. C'est un dialogue de longue date avec des lecteurs. Moi, comme toi, ça fait, moi, c'est peut-être 25 ans, en fait, que je fais de la critique de cinéma. Il y en a qui n'aiment pas ce que j'écris, mais d'être cette espèce de cohérence-là, je pense qu'elle aide aussi le lecteur à se placer.
Je rebondirais sur ce que tu dis. Le plaisir aussi de la critique, c'est d'en lire, de lire différents critiques.
Parce que vous lisez?
Après avoir... Je lis après parce que je ne veux pas être influencée, je ne veux pas risquer de voler un mot, un adjectif, une pensée. Mais moi, j'aime beaucoup lire les critiques. Et par exemple, j'ai des bons souvenirs de Denis critique parce que des fois, on aimait les mêmes films et pour des raisons complètement opposées. On pouvait haïr le même film mais pour des raisons totalement différentes. Et moi, ça me plaisait. Ou des fois, il détestait, j'aimais ou le contraire. Et c'est le fun de confronter ces idées. Moi, je pense que ça nous forme aussi parce que je pense qu'on est en constante formation. Tu ne peux pas dire, bon, à 25 ans, je suis une vraie critique puis 30 ans plus tard, je n'aurais pas changé. Non, je pense qu'on évolue. Ben, on vieillit aussi, on mûrit, mais j'ai l'impression que justement, le contact des autres critiques, évidemment des films qu'on voit, du bagage qu'on accumule.
Est-ce que vous trouvez que c'est un métier qui est en voie de disparition? Parce qu'il y a toutes sortes de gens maintenant qui se permettent de faire leurs critiques. Il va y avoir des influenceurs, il va y avoir beaucoup de promotions aussi autour des films où il y a des entrevues. J'ai l'impression que la critique prend moins de place dans l'industrie cinématographique.
On dirait qu'il y a deux familles dans la critique. Moi, je suis très, très, très dans une et je suis très, très contre l'autre.
Explique-moi les deux familles.
C'est que, historiquement, dans la critique, il y a des gens qui viennent et qui écrivent au jeu et qui imposent leur personnalité, nonobstant le lectorat, nonobstant son patron, nonobstant des tendances autour. C'est pas des agents promotionnels, c'est des gens qui disent « Moi, j'aime ça, puis si t'es pas content, ne me lis pas. » Ça a donné quelques individus dans l'histoire, que ce soit Pauline Kael ou Richard Brody au New Yorker, que c'est un plaisir à lire, puis si t'es pas d'accord, tu veux tout détruire. Manuela Dargis au New York Times. Et dans l'histoire du Québec, quelques individus. Quand je dis quelques individus, c'est que ça a tendance à disparaître. Moi, quand je pratiquais la critique, on était... c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc, forcément, on recevait pas. Je recevais une lettre par deux mois d'un lecteur frustré. Aujourd'hui, vous êtes là pour dire que c'est automatique dans ta boîte email. Moi, j'ai pas vécu ça. Donc, j'étais protégé. Et j'avais personne qui me surveillait. J'avais un peu les ventes publicitaires qui me surveillaient, mais j'étais libre de démolir tout ce que je voulais ou de me passionner sur deux pages pour un truc obscur de Cinémathèque. Donc, moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans « j'aime Denis Côté, je le lis, je déteste Denis Côté, je ne le lis pas, et après moi, le déluge ». Et moi, je vais vraiment dans cette catégorie-là. Il n'y en a presque plus des gens comme ça. Comme si on ne peut presque plus se le permettre. Donc, la deuxième famille que j'appelle, c'est pas de la critique, c'est je connais mon lectorat, donc je vais parler à Monsieur Tout-le-Monde. Si vous voulez aller voir ce film, il y a Catherine Deneuve dedans, elle est excellente. Si vous voulez aller voir ce film, c'est un film de François Ozon. Il a réalisé tel film. Si vous aimez des fins à l'eau de rose, c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, c'est à prendre ou à laisser. Ça finit tout le temps comme ça. Et ces critiques-là, c'est écrit par personne, d'habitude. Il y a quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui va rester là que lui c'est mon préféré, elle c'est ma préférée. On va lire le journal et on va
On oriente les gens
sur l'objet. Si vous aimez cela, allez voir cela.
Et on suggère, on est dans
suggère.
La...
On s'attache pas à la personne qui est en train d'écrire. Donc d'une semaine après l'autre, on va ouvrir le journal, ben, il y a du 3, il y a du 4 étoiles, on sait pas par qui c'est signé. Alors que si on vit à l'époque du 1 étoile de Manon ou de mes étoiles à moi, c'était vraiment comme ça. Ça brassait. Donc aujourd'hui, quand je lis des critiques très relativisantes, c'est pas que c'est des agents promotionnels, ces critiques-là, mais c'est des gens qui veulent garder leur emploi, sont dans un média délicat à cause des ventes publicitaires.
Manon, Marc, vous avez même nuit aux recettes publicitaires de votre journal.
Moi, je me rappelle, j'ai refusé qu'Idole instantanée soit à la une. J'ai dit, il n'est pas question que je fasse les entrevues, c'est une sombre merde. On tue la une. Et Pierre Paquet n'était pas content, mais il a dit, OK, Manon, on te fait confiance, on va mettre les choses.
Moi, j'ai un patron qui m'a dit, on a perdu un contrat de 100 000 $ de Guzzo à cause de toi.
Mmh. Oui.
Ça, c'est...
Hey, comment on vit avec une pression comme ça? C'est terrible.
Ben, premièrement, ça ne vient pas directement à nous, ça passe par le rédac-chef. Oui. Donc, lui, il se sent très, très mal. Oui. Là, il ne sait pas si ça doit venir au rédactionnel parce que ça vient du publicitaire.
Et c'est pas supposé.
C'est pas supposé, mais là, en réunion, il passe le message. S'il est avec toi, il est avec toi. S'il est contre toi, il est contre toi. C'est très, très, très subtil. Mais ça se voit dans le journal. Regardez, là. S'il y a une pleine page de publicité et c'est malencontreusement tombé à côté de la critique négative... Oui. Surveillez la semaine prochaine la grosseur de la publicité. Ça sera un huitième de page.
Mais ça se pose moins parce qu'il n'y en a plus de pub. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire, moi, je viens d'une époque où je dirigeais le cahier cinéma à la presse, où Manon a commencé, d'ailleurs, elle faisait de la critique, en 2003. C'est exactement ça. On avait un cahier, on avait de la pub. Les publicitaires sont partis chez Facebook et tout ça. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a plus de liberté, il y a moins de ces contraintes-là. Mais je suis un peu d'accord avec Denis.
Mais les gens ne l'ont pas pris, la liberté.
Mais c'est ça, c'est que c'est devenu... C'est comme dans l'air du temps d'être dans le... Je cherche le mot, là.
Bienveillant. Mm. De se dire qu'un film, un album, une pièce de théâtre, c'est fait pour être aimé. Ces gens-là ne nous veulent pas de mal, là. Ils ont créé une œuvre, puis c'est dans la bienveillance. Puis là, il faut accompagner ce sentiment bienveillant-là et protéger les œuvres d'art. Donc, on s'en retient. Ouais. Mais ça vient d'où, cette règle-là? Pourquoi qu'on peut pas casser une œuvre d'art, puis on verra, tu sais? Puis là, ça renforce le métier de critique, ça renforce des égos aussi, là, mais ça crédibilise le métier de critique qu'une fois de temps en temps, il y a une bonne claque sur une œuvre, ça fera sa petite controverse de quelques semaines, mais ça reste sain, là, le débat reste sain.
Qu'est-ce qu'on fait avec notre cinéma national, tu sais? On est capable de voir le cinéaste de l'autre côté de la rue.
Oui,
on peut
c'est
croiser...
sûr que j'ai rencontré Philippe Falardeau et Éric Canuel, moi, chez Jean Coutu. Mais je veux dire, je ne m'empêcherai pas de faire des mauvaises critiques s'ils font des mauvais films. Je veux dire, moi, je suis contre l'idée, là, faut protéger notre petit milieu, nanana. Non, non, moi, l'inceste, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, si le film est mauvais, je vais l'écrire noir sur blanc. Et l'été passé, quand la presse m'a approché pour remplir le grand vide que laissait Marc-André Lucier, je leur ai dit, moi, je suis pas fine tout le temps.
Oui, puis moi, je leur ai dit, Manon, elle met pas de gants blancs. Là.
Non.
Mais je pense que si on est honnête, le milieu en général...
Aime ça.
Il y a une demi-étoile Qualité Québec. Là. Moi, oui. J'ai toujours fait cette blague-là, là, mais oui. Je veux dire, OK...
On en met un petit peu plus pour le Québec.
Tu as donné trois étoiles et demie, là. Ça veut dire trois étoiles, oui. Quand c'est un film québécois. Puis je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est un cliché, là, mais c'est un peu une blague.
La gentillesse dans la critique de cinéma ou les trucs un peu beige ou fades, ça vient souvent d'un manque de cinéphilie. Et d'une impossibilité à contexter une œuvre, contextualiser une œuvre, ben là, tu peux. T'es obligé de de t'en aller dans ton coin puis de dire que les acteurs sont bons, l'image est belle, la musique est belle. Quand t'as pas d'armes, là, tu sais. Mais si moi, je regarde un film sur un vol de banque et que j'ai 50 ans de cinéphilie à l'intérieur du corps puis tous les films avec des vols de banque qui sont déjà un peu dans ma tête, puis je peux dire que ce vol de banque-là, c'est tellement supérieur au petit vol de banque qu'on m'a proposé ici.
Ou qu'on plagie un vol de banque que j'ai vu il y a 25 ans.
Moi, je vais passer un paragraphe et demi à contextualiser les films avec des vols de banque. Si t'es pas armé de ces connaissances-là, ben tu pars de rien. Fait que l'acteur est bon, l'image est belle. Mmh. Fait que c'est une gentillesse qui... c'est de l'érudition qui manque peut-être aujourd'hui, qui mène vers la bienveillance puis la gentillesse.
Denis, tu m'as déjà dit quoi? On s'était vu à Berlin, au Festival du film de Berlin. Puis tu me dis, moi, j'aime ça me faire critiquer par des Espagnols, des Allemands, des Italiens qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam.
Ben oui.
Pour toi, c'est plus objectif.
Ben, ils me doivent rien du tout. Mm. Ils me doivent rien du tout. Ils me rencontreront nulle part. Au pire, on va peut-être avoir une interaction Facebook dans 3 ans parce qu'un ou l'autre connaît l'autre, mais je trouve ça très, très pur. Je trouve ça sain. Des fois, ça fait mal. Est-ce que je lis les gens qui m'ont déjà critiqué 7-8 fois au Québec, puis que je connais, puis qui vont écrire... ils vont partir d'un certain respect pour l'œuvre de cet individu-là qui croise dans le bus 80, là, tu sais. Ben, je suis un peu plus comme... Ben, je vais aller, mettons, fouiller sur le blog un peu plus spécialisé ou qui me doit rien.
Est-ce que le fait que tu es un ancien critique, tu penses, te rend plus
ça
sympathique?
Aussi?
Mais c'est... Oui, c'est ça. Nous, on...
Ouais, c'est moi, on est vieux, on s'en rappelle.
Oui, on s'en rappelle. Nous, on s'en rappelle. Mais
vous deux,
puis je m'en souviens pas tout le temps. Là, je veux dire,
ben,
c'est
vous
pas,
deux,
quand
oui,
je vois
mais...
Films, non,
mais... Hey, là, il faut quand même dire 17 ans, on est proche d'une génération. Là,
Ben, même moi, je lisais pas Denis là, à l'époque.
Mais il y a pas beaucoup de cinéastes ni ailleurs, ni au Québec, qui dirait « Moi, je préfère des critiques qui sont franches, qui osent... »
Mais c'est ça, c'est un métier qu'ils n'ont pas pratiqué.
Sauf que toi, t'as été critique, puis après, t'as fait des films.
Ouais.
T'sais, Manon et Marc ne feront pas de films.
C'est pas un problème.
Il y aurait
ça.
Un réflexe qui serait un peu comme méchant et un raccourci intellectuel en même temps de dire... Ben, si t'as pas aimé ça, fais-en donc des films pour voir
ça. Je trouve ça cave.
Il y a encore plein de gens qui disent ça, mais...
Tu sais, ou t'es une cinéaste frustrée. Ben non, je suis pas frustrée, pas en tout.
Moi, j'ai zéro de fibre artistique. C'était pas ça. Moi,
c'est deux métiers.
Totalement.
C'est sûr que... Moi, des fois, je me dis, ça serait le fun de prendre Marc Cassivi puis l'amener une journée sur mon plateau. Qu'est-ce qu'il va voir
mais
ou qu'est-ce qu'il va apprendre?
Mais ça, j'ai
attendre.
Des plateaux.
C'est clair, on fait juste attendre.
Non, mais pour vrai,
oui,
pas pour
vrai,
des
oui.
journées promotionnelles.
Oui, oui.
Non, je comprends.
Qu'est-ce qu'il va apprendre ou qu'est-ce que ça va améliorer à son travail? Pas grand-chose. Mais viens passer une journée dans ma salle de montage, voir qu'est-ce qu'on se dit entre couper là ou jeter cette scène-là. Je suis à peu près certain que ça vous éclairerait.
Oui.
Pas que ça va changer le monde.
Ça nous fascinerait, c'est
ça. Ça fascinerait, mais c'est pas ça, la job de critique. C'est si t'as le bagage cinéphile, si t'es capable de contextualiser les films et le monde...
On juge pas le processus,
non.
On juge le produit final.
Exactement.
Mais puis je reviens à ce que Manon disait à propos des lecteurs. Bon, nous, on est dans un journal grand public.
C'est ça.
Ben moi, j'écris pour mon frère qui n'aime pas le même cinéma que moi. Je suis fidèle à ce que je suis comme cinéphile, comme gars avec mes valeurs, et je vais juger un film d'après ce que je suis avec ma personnalité. C'est pour ça que moi, je fais plus de la chronique. Mm-hmm. C'est de la chronique, c'est de la critique, c'est un peu tout ça. Puis après ça, si vous aimez ça ou pas, c'est pas de mon ressort. C'est-à-dire que moi, j'accompagne pas le lecteur. Mais je veux pas qu'à chaque semaine, ils se disent... Il me semble qu'il est à côté de la traque. C'est-à-dire, je suis pas dans un carcan, puis j'en sortirai jamais. Mais je suis, comme critique, quelqu'un qu'on peut placer à quelque part, me traiter de ci ou de ça, de woke ou de je ne sais quoi. Puis on peut se placer à contrario ou pas. Puis c'est ça, je trouve, la façon la plus intéressante de faire ce métier-là.
C'est pour ça que quand je lis des fois certaines personnes à la presse ou feu Marc-André qui était la meilleure personne pour écrire pour Monsieur Tout-le-Monde.
Mm-hmm.
Fait que c'était pas mon critique. T'sais, moi, je n'étais pas Monsieur Tout-le-Monde. J'aimerais ça qu'il rentre plus précisément dans un film dont je connais tous les films de ce cinéaste-là. Il savait dans quel média il écrivait. Il savait à qui il parlait. Il était facile à aimer parce que c'était rassembleur. C'était facile d'y tourner le dos quand t'étais le gros cinéphile pur et dur, là. Mais c'était quand même une qualité, ça.
On va y revenir à Marc-André, mais j'aimerais ça vous faire entendre un extrait. On a parlé à Christian Larouche parce qu'on lui a demandé si la critique changeait quelque chose pour le box-office films. Oh. Ben, vous allez peut-être être étonné de sa réponse.
Oui.
Pour la critique, quand je produis un film, je ne pense pas à la critique du tout au point de départ que je produis le film. Mais à la sortie, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir des bonnes critiques. Mais je pense que si je fais un film grand public, l'impact est moindre que si je fais un film beaucoup plus pointu, un film d'auteur. Et que je pense que ça affecte plus mon film au bout de la ligne. Pour moi, Marc Cassévi a une notoriété dans le milieu cinématographique, mais quand il fait une critique, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il explique la raison pourquoi. Et puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous, en tant que producteur et distributeur, de l'accepter quand il explique pourquoi, quand c'est gratuit, puis il dit « moi, j'ai détesté », puis il dit pas pourquoi. À ce moment-là, c'est frustrant, parce que le public ne fait pas la différence quand il y a un gros titre. Alors, bien souvent, le gros titre est là, puis la critique dit ou le texte dit complètement autre chose. Bien souvent, le titre est dévastateur, et quand on lit la critique, c'est beaucoup plus positif. Alors, ça arrive souvent.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il raconte? C'est-à-dire où on doit forcément sortir, détailler pourquoi on n'a pas aimé le film ou pourquoi le film n'est pas bon, selon notre expertise. Est-ce que tu parlais de remettre en contexte, mais est-ce qu'on doit tout décortiquer du film?
Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il vient de dire, là.
Sur l'impact, je suis d'accord avec lui. Pour le producteur qui veut faire des entrées ou je ne sais quoi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'impact. Et de moins en moins, on parlait de la critique qui disparaît, l'impact de la critique est de moins en moins grand. Mm-hmm. C'est vrai que pour un petit film, si la critique s'emballe de façon générale, si tout le monde aime ça, si tout le monde donne des bonnes notes, ça peut avoir un petit impact.
On m'a même dit, là, des gens du parc ou des cinémas, on m'a dit... Un logo sur une affiche de gagnant de quelque chose au Festival de Cannes, ça n'a même plus aucune incidence. Des prix dans des festivals, ça n'a aucune incidence. Demande à Monsieur Tout-le-Monde, c'est où le Festival de Locarno, dans quel pays, ou de Carlevi-Vary. Je ferai le sondage ici dans la pièce, puis ça ne marche pas. Donc ça, même pour le cinéma d'auteur, là, à l'époque, on revient à notre fameux 2003... Oui, le film iranien fragile, 4 étoiles dans un hebdo culturel, oui, ça pouvait ça remplir un beau bien. Aujourd'hui, non.
Même plus
mais,
ça.
Mais même, c'est peut-être 2005-2006, je me rappelle, l'année de Crazy et d'Aurore, le film de Luc Dion et de Jean-Marc Vallée. Deux films grand public, un très bon et un médiocre. Les deux ont fait 6 millions au box-office. L'un a été encensé par la critique, l'autre a été déchiqueté, tout ça. C'est là qu'on voit que c'est le public qui a le dernier mot.
C'est pour ça que la qualité de la critique avec ces films-là, c'est plus d'en faire la promotion. Fait que c'est pour ça que moi, je dis des gens intelligents qui mettent les choses en contexte, puis une fois de temps en temps, un coup d'éclat.
Bien, Manon, Marc, c'est quoi vos plus grands coups d'éclat dans votre cas?
Moi, mon plus grand succès en carrière, c'est ma critique de Cats. Il y a plein de gens qui ne me parlaient pas dans la salle de rédaction qui m'ont dit « Hey, c'est super drôle, je me suis roulée à terre, j'ai presque envie de le voir. » J'ai remarqué que quand on varlopait un film, qu'on mettait une étoile, les gens aimaient ça.
Moi j'ai à la fois été un peu comme toi quand je dirigeais... Alors, on revient en 2003, où je dirigeais les pages cinéma à partir de 2000. Puis j'ai fait entrer aussi le loup dans la bergerie avec des étoiles. Parce que c'était comme ça, tout le monde le faisait. Puis je me disais aussi, moi je pensais au lecteur, tu sais, comment. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les notes, les algorithmes et Rotten Tomatoes, ça prend toute la place. Puis c'était peut-être pas une bonne idée. Moi, j'ai le loisir, comme je fais de la chronique, d'avoir plus d'espace, de ne pas mettre de notes. Et puis, des fois aussi, d'y aller d'un coup de gueule. Mais il y a eu, moi aussi, c'est des moments où on m'a parlé de Denis Arcand, L'âge des ténèbres. C'était un film de mon oncle, puis j'avais démontré pourquoi. Puis c'était une époque où, je pense, Denis Arcand n'était pas encore au Québec. Ailleurs dans le monde, c'est pas vrai. Là, il était déjà vu un peu comme un réactionnaire, mais pas au Québec. Puis là, on me parlait de ça, où, je sais pas, il y a eu des c'était qui donc?
Ou quand t'as osé ton fameux... Ton fameux « La graine et le mulet ».
T'avais dit quoi sur « La graine et le mulet » ?
Tu aimais ça.
Oui, mais le titre, c'était « Allez voir ce film, c'est un ordre ». Puis il y a des gens qui sont comme...
Ça avait choqué.
Ah oui, c'est un ordre.
Ça avait choqué les gens.
C'est des titres que j'aurais fait aussi à l'époque.
C'est ça. Ouais.
Mais là, lui, il avait beaucoup plus, un beaucoup plus grand lectorat. Puis après, c'est Marc Cassivi qui donne son opinion sur un film, surprise, qu'il a aimé en plus. mais à cause du titre, ça peut durer des années.
Le titre, c'est super important.
Oui,
c'est
bien,
ce qui va donner le ton.
C'est-à-dire, ça, tu vois, Christian Larouche qui parlait de ça. Moi, bon, d'abord, je fais pas beaucoup de critiques. Je fais vraiment plus de la chronique. Et donc, oui, les titres, ce sont les miens. Je pense que souvent, ils sont en adéquation avec... Je sais pas, moi, de faire du clickbait. Je suis pas du tout... au Journal de Montréal. Je ne sais pas ce que je fais. Mais bon, il y a des moments où tu vas faire un coup de gueule sur Patrick Huard parce que son film, il n'est vraiment pas à la hauteur. Puis ça va faire... On est habitué, comme dit Denis, au Québec, à être un peu frileux, à être gentil, à être dans la bienveillance. Puis quand on dit les choses franchement, ce qui se dit hors des micros, moi, j'essaie de dire franchement ce que j'en pense en ondes, puis dans le journal.
Ça,
puis,
c'est quelque chose.
Puis Manon est comme ça aussi.
Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. On sort de la salle. Bon, tu me diras, c'est une critique à chaud, là. On sort de la salle. Hey, c'était de la fucking merde, ce film-là. J'ai-tu droit de dire ça? En tout cas, c'était vraiment pas bon, ce film. Puis là, 3 étoiles après, 3, 4, 3 et demi. Tu dis, voyons donc. C'est sûr que des fois, ton opinion m'a changé, mais pas du tout, tout, tout. Tu dis, voyons donc. T'as dit que c'était de la merde. T'as quasiment vomi en sortant de la salle. Puis là, mais
c'est de là qu'après, tu m'as écrit, là, tu fais, oh, maintenant, je dois penser au lecteur. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas.
Mais est-ce que vous pensez que des fois, même. Il y a certaines critiques qui vont penser au cinéaste. Et je pose la question, est-ce qu'il y a des intouchables?
Ben,
est-ce qu'on peut encore critiquer Denis Arcand, Xavier Dolan, Denis Villeneuve?
Je reviens à ce que je disais. Moi, quand je dis j'écris au lecteur, si je fais une critique de Denis Côté, d'un film de Denis Côté ou d'un film de Luc Dionne ou de Louise Archambault, c'est pas une lettre d'amour ou une déclaration de haine
c'est
que je fais.
C'est pas un dialogue que tu as avec le cinéaste.
Je me dis, je me doute bien qu'il va lire parce qu'il y en a qui disent, oh, moi, je lis pas la critique. Yeah, right. C'est sûr que tu as lu parce que tu me regardes d'un bête quand tu me croises chez Jean Coutu. Mais bref, c'est pas une lettre d'amour ni une déclaration de haine que je fais. Je me dis, oui, il va la lire, mais je m'en fous qu'il la lise. Moi, c'est au lecteur que j'écris. Moi, Manon Dumais, j'ai trouvé ça poche pour telle et telle raison, ou j'ai trouvé ça brillant pour telle et telle raison. Et puis ceux qui m'aiment, ben vont dire ceux qui ont les mêmes goûts que moi vont dire ah, ben je vais peut-être y aller. Puis ceux qui ont pas du tout les mêmes goûts vont dire ah, ben j'irai. Enfin, ils vont se faire une idée par rapport à ce que je fais parce que c'est pas une science exacte non plus la critique. Là.
Un coup que ça c'est fait, je reviens avec ma question de tantôt. Est-ce qu'il y a des intouchables?
De façon générale, c'est-à-dire que les gens sont comme oh mon Dieu, t'as osé. Bon, moi j'avais fait une critique, j'ai fait une chronique quand Testament est sorti qui était assez dure. Bon, je pense qu'il faut accepter que ces gens sont pas intouchables. Mais c'est pas ce que j'allais dire, c'est que c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire, nous on n'écrit pas ça. Moi je prends pas plaisir là, à taper sur les gens. Puis je sais très bien qu'il y en a qui sont plus sensibles. Bon, un Denis est capable d'en prendre, mais il y en a d'autres, là, la moindre critique, j'ai des cinéastes, certains
mais faut pas
considérés comme
quand
des prodiges.
Quand on fait un film, il y a toutes sortes de cinéastes. Hein? Mm-hmm. Moi, bon, très prolifique, là, 15 films en 18 ans, c'est pas trop dur que quelqu'un va comprendre que quand je fais un film, j'essaye des choses, il y en a des petits, il y en a des gros, j'aime me tromper, j'aime... Bon, mais il y a énormément de cinéastes qui font un film aux 5 ans. Ils mettent toutes leurs tripes. Mm-hmm. Ils parlent souvent, c'est des autobiographies, une chose que j'ai jamais faite. Le mononcle dans le film, c'est leur mononcle dans vie.
C'est souvent les premiers films.
Puis il y en a qui n'acceptent pas la moindre critique. Et qui nous en... Je veux dire, moi, j'en ai connu des cinéastes qui m'ont pas parlé pendant 5 ans. Oui.
Des fois, j'ai l'impression que ce rapport-là, en disant « t'as pas aimé ce que j'ai fait ou t'aimes pas ce que j'ai fait », ben oublie ça, t'auras pas de rencontre avec le cinéaste parce que tu vas lui nuire avec... Tu sais, moi, je l'ai vu souvent au Québec, là, dans... Nathalie Petrovski en a souffert beaucoup là, de ça, là, d'aller critiquer des zones intouchables dans la culture québécoise, puis...
Elle se faisait barrer
elle s'est faite barrer.
Mais Denis,
ouais.
Ah
ouais, puis
tu
Robert
t'es pas
Lévesque.
Fait barrer aussi.
Ben oui, t'as perdu
c'est
ta
un peu
job.
Ça, l'histoire de...
Oui, ben là, avant d'aller dans le passé...
Ah oui, c'est ça, en 2003.
Regarde, moi, comme cinéaste, aujourd'hui, quand mes attachés de presse arrivent puis qu'ils me disent « Bon, tu veux-tu faire les entrevues? » Moi, je suis pas barré quelqu'un, mais c'est sûr que, comme je fais des entrevues à chaque année et demie, je dis à mon attaché de presse, j'ai lui, il est tellement plate. Tu peux-tu faire quelque chose, tu sais? Tout ce qui est blacklist, c'est qu'il y a une histoire derrière, là, tu sais. Les producteurs, les réalisateurs qui appellent des critiques puis des journaux, c'est
parce
pas
que ça aussi, ça existe.
Et des embargos, ça envoie le message qu'on fait pas confiance à notre film, on veut pas que la critique se prononce. C'est pas bon, ça. Au nombre d'années qu'on fait ça, je les ai eu, les producteurs, les distributeurs qui, justement, des fois, bon... dans des élans.
Les acteurs aussi.
Et des acteurs.
Parce qu'avec les orangs, on en a reçu des messages de bêtises, de thérapie.
Des gens qui, sans discernement. Puis moi, c'est ça que... qui me dérange le plus, c'est tu comprends pas ce que je fais, tu comprends pas mon métier. Je suis pas là pour être un relais de marketing ou de promotionnel de ton film. C'est pas ça. Oui, mais si t'avais donné 4 étoiles, je m'en fous, moi, des étoiles. Je m'en fous complètement. Ça m'intéresse pas. Puis il y a encore ça.
Vous êtes-vous déjà trompé? Est-ce que vous avez déjà regretté des critiques?
Non. Jamais? Non, ben oui.
Ça arrive?
Oui, oui, bien sûr.
Il y a des demi-étoiles de trop, des fois. Oui.
Moi, c'est pire que ça. Là, c'est genre, quand je voyais des films à 24 ans, j'avais des principes très, très durs, ma grosse cinéphilie. Puis aujourd'hui, je fais exprès pour les revoir avec l'âge que j'ai. Puis je vois bien que je suis diamétralement opposé à mon opinion de l'époque.
Ouais.
Je
me suis dit, vous évoluez comme critique.
Des fois, on passe à côté. Tu sais, par exemple, il y a les contextes, les festivals. Moi, je me suis le plus souvent trompé en festival. C'est-à-dire, t'es à Cannes, t'es à ton 4e film, t'as les yeux qui ferment.
T'as une ovation de 6 minutes pour.
Pas tellement cette influence-là. Plus. Fatigué dans un contexte. Ou moi, je dirais, le plus souvent, parce que je suis assez sensible, des fois, l'émotion que je ressens me fait magnifier mon expérience d'un film. Puis je vais le voir dans un autre contexte, dans un autre... Puis ouais. C'est normal, là. Je vais voir plus ses défauts. Ou il y a des films qu'on a aimés quand on était... Ou, tu sais, à contrario, il y a des films qu'on a aimés quand on était jeune. J'avais adoré Boys in the Hood quand j'avais 16-17 ans. Tu sais, je trouvais que c'était dans South Central, Singleton, son film, il y avait 24 ans, tout ça. Je l'ai revu, ça vieillit très, très mal. Là.
Il y a des films qui vieillissent mal, il y a des films qui restent pertinents.
Puis il y a nous, des fois, qui pouvons vieillir mal, ça arrive.
Oui, il y a ça
mais...
aussi.
Non, mais il y a le danger, c'est qu'on fait souvent, en festival, c'est vrai, ça peut pas être plus que de la critique à chaud que ça, là, parce qu'on sort de la salle, puis tac, 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 on écrit quelque chose. Mais même des fois, on n'a pas... On voit pas le film plusieurs fois, on le voit une fois. Tu sors de la salle à midi, puis à 3 heures, faut que tu remettes ton texte. Ça donne pas beaucoup de temps pour mettre une grosse grille.
Tu as peut-être raté quelque chose. Avec une personnalité forte sur un film, mais c'est dans un temps très précis.
Oui, puis un nombre
J'avais
de mots précis.
J'avais 26 ans en 1999, puis là, j'arrivais avec ma grosse personnalité. Donc, le lecteur, il faut qu'il fasse la part des choses. Ah, lui, je l'aime. Mais en même temps, il ne faut pas que tu oublies que...
Oui, mais je ne suis pas sûre que le lecteur va nécessairement faire cette part des choses-là.
Non, mais c'est un truc, c'est un jeu à chaud pour tout le monde.
Denis Côté, Manon Dumais, Marc Assivi, le monde change et le monde évolue. Et je me demande si l'âge, la nationalité fait une différence quand on écrit une critique. Est-ce que le regard change en fonction de qui écrit la critique?
Black Panther, film de Marvel, grand public et tout ça. Moi, je vais voir ça. Je ne suis pas un fan de trucs de super-héros, même si je les vois tous parce que mon fils aime ça. Je sors de là en trouvant qu'il y a bien du monde qui s'entretue. Et puis, je faisais une émission avec Rebecca McConnell, Esprit Critique à l'époque. Puis elle a trippé parce qu'elle sait... une question de représentation à l'écran. Là. Elle dit, moi, j'aurais aimé ça, voir ce film-là à 12 ans, ça m'aurait donné le Wakanda Forever, je ne sais quoi. Puis moi, je suis passé complètement à côté de ça et je ne m'excuse pas de ça. C'est-à-dire qu'elle, elle m'en a voulu. Ça a même été une chicane.
Ah oui?
Oui, elle m'en a voulu. Puis les gens woke autour d'elle, ils disent que tu es complètement dans le champ. Regarde, je l'ai revu. Je trouve pas que c'est un très bon film. Je comprends sa portée sociale. Tant mieux.
Tu t'es
super.
Placé sur le terrain du cinéma.
Oui, c'est ça.
Elle s'est placée sur un terrain beaucoup plus social. Les deux, vous avez plutôt raison.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est
toi, tu lectures. Vas perdre. Dans l'air du temps,
je perds. Oui, oui, évidemment.
Mais c'est quand même vrai que si les gens viennent dire au niveau de la représentation, on n'a jamais vu ça, c'est un argument de poids réel. Si là, toi, tu veux revenir dans le cinéma puis dire comme film de super-héros, ça, c'est totalement supérieur. Ton point se tient.
Missing the point, comme on dit.
Ton point se tient parce que t'es juste dans le cinéma. Mais dans l'époque où on vit, faut donner 2-3 points de plus pour ces initiatives-là qui cassent certains moules. Mais dans des mauvais films.
J'ai donné 2,5 étoiles à des films qui n'étaient pas réalisés par des hommes blancs hétéronormatifs, cisgenres, tout ça. Et je me suis fait ramasser par des collègues qui disaient « Voyons, mais comment as-tu osé? » ben oui, mais le film n'est pas bon. Même vous, vous ne l'avez pas trouvé bon.
On n'aide personne en étant complaisant. Puis en,
condescendant.
Oui, puis il y a une certaine condescendance
oui,
là-dedans.
Moi, t'as ça raison.
En étant complaisant et condescendant, en disant c'est bon pour un film fait par. Là.
C'est ça.
Parce qu'on écrit
bon
à des gens qui vont aller voir le film puis qui vont dire mais coudonc,
c'était
pas bon. Puis, donc, on n'aide personne. On n'est pas en train de dire au cinéma. Moi, je n'écris pas pour les cinéastes, là, mais je veux dire, si un cinéaste a envie de prendre la critique puis de dire ah, peut-être que ça, c'est intéressant. Et je pense que les artistes, des fois, ils prennent certains trucs à gauche, à droite, puis ils disent, bon, ouais, pourquoi pas? Peut-être si tout le monde a vu ça, peut-être que j'ai raté mon coup. Puis les relations les plus intéressantes que j'ai avec des cinéastes, qui sont jamais des relations tout à fait d'amitié, parce que j'aime garder ça arm's length, mais tu sais, un gars comme Denis, on se côtoie depuis je sais pas combien d'années, tu sais, on est des amis entre guillemets, là. On n'est pas des amis, mais on partage certains trucs, mais ça fait en sorte que il y a un rapport, je pense, de respect entre certains artistes et la critique qui fait en sorte qu'ils sont capables d'en prendre. Ils voient que... Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Ils vont dire, regarde, je n'étais pas du tout d'accord avec toi, mais tel truc, puis souvent, ça vient avec le recul. Puis, telle année, quand tu as parlé de telle affaire, ouais, finalement, peut-être que c'est vrai que mes dialogues...
Moi, quand je sors un film, tout ce qui s'écrit de positif sur mes films ne m'intéresse pas. Ben, c'est... J'ai fait le meilleur film possible, un film que j'aime. Mmh. Puis là, il y en a qui disent que c'est bon, puis ils ont aimé ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est super, là, mais... Là, les deux, trois qui ont frappé dessus, là... C'est le fun, c'est drôle, je suis pas d'accord, c'est un con... Mais y a-t-il un argument là-dedans que ça a piqué à la bonne place? Ça m'a déjà arrivé, puis... Ça, c'est intéressant, tu sais. Ou combien de fois j'ai vécu... Nathalie Petrovski. Que quand on se voit, c'est super amical. Écoute, en 2013, à Berlin, oui, je gagnais mon prix, puis elle me tenait la main. Puis... Fouille-moi pourquoi elle était là. Fouille-moi pourquoi on était assis ensemble. Elle me tenait la main, elle me parlait comme si j'étais son enfant. Puis elle est allée dire des horreurs sur certains de mes films, live à la radio. Puis ça a tout le temps l'air un peu d'un show. Parce que si je la revois, elle est super douce en personne. Puis c'est pas, ça parle de l'hypocrisie.
Oui, mais elle-même, elle dit qu'elle est un personnage.
Elle, elle a tout compris ça. Du côté show-off à la radio puis à la télé. Oui. Elle s'en porte plus qu'elle devrait. Après que tu as compris ça, là, c'est une super joute. Là.
Mais c'est un peu ça quand je parlais de la critique spectacle. Tu sais, c'est d'en donner plus que client demande pour faire un show.
J'ai pas une excelle. Bonne mémoire, mais elle a dit une atrocité. Je sais pas si c'était mon film Hygiène sociale à la radio. Ouais, Hygiène sociale, je pense. Ou peut-être un été comme ça. Tout de suite après, elle est tellement... C'est pas une amie, mais je comprends tellement le personnage, je suis tout de suite allé y écrire sur Messenger. Je dis, ouais, hein, t'es allé fort dans le spectacle. C'est juste ça m'a pas envoyé un clin d'œil.
Mm. On va terminer là-dessus. Je voulais savoir quel genre de critique vous voulez voir germer derrière vous. Là. Qu'est-ce qu'on aurait à souhaiter au cinéma pour la génération montante qui travaille dans les médias?
Il faut qu'ils soient curieux. C'est-à-dire voir des films avant leur date de naissance, là. Pas seulement ceux qui
même
ont commencé. Même en noir et blanc,
mm-hmm.
même avec pas de son dedans,
mm-hmm.
avec des sous-titres, mm-hmm. puis un accompagnement au piano à la cinémathèque. Des trucs comme ça.
Puis s'engager sur un cinéaste qui a fait 12 films, ben, quand t'as 20 ans, t'es capable de regarder les 12 films d'un cinéaste.
Exact. Je suis d'accord. Tard, là, oui.
Faire les devoirs.
Oui, cultive-toi, mais sois curieux, puis sois ouvert d'esprit. C'est pas parce que t'aimes pas tel genre de film. Tu sais, par exemple, tu détestes les musicals. Va donc en voir quelques-uns.
Le bagage de 18-25 ans, il est extrêmement précis. C'est là que tu vois ton film préféré d'habitude. Mais ça se crée pas pour le fun à 50
non,
ans, là,
non,
la
non,
passion
y a trop
cinéphile.
Y a trop mais je dirais aussi de voir des mauvais films. Pas
ben
que
oui.
des chefs-d'œuvre, pas les côtés 1 de Mediafilm. Il n'y a
ben
pas
oui.
que ça à voir. Il faut les voir, les films, les navets, ce que j'appelle des navets, les daubes, appelez ça comme vous voulez. Il faut les voir parce que même dans un... Il y a un plaisir qui n'est pas coupable chez moi. Mais tu sais, parce que même dans le plus mauvais film, il peut avoir un plan poétique, une idée intéressante qui a été mal exploitée. Soyez curieux. Puis si vous êtes abonné des plateformes, fouillez, là, regardez pas, contentez-vous pas des algorithmes, fuckez vos algorithmes.
Tu dis ce
oui.
que je dis quand je vois les étudiants dans les cégeps, les universités,
ouais.
je le vois, ils sont juste, il y en a juste 2-3 par classe là, qui sont vraiment allumés, puis c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ça que je leur dis. Je dis, si on vous annonce à l'école que demain, on vous présente un film brésilien de 1964, c'est quoi votre réaction? Vous rentrez pas, vous dormez sur votre pupitre, vous soupirez quand vous entendez ça, ou vous êtes tellement excité de voir un vieux film de l'époque brésilien. Vous êtes qui? Ils répondent pas, c'est sûr. Mais c'est de même que tu gauges, que tu calcules leur intérêt pour le cinéma, puis qu'il faut absolument que ça soit une passion. Puis on revient à quand on a commencé, tu as dit, faire de la critique, d'abord, on aime le cinéma.
Oui.
Ça empêche pas,
oui,
de,
déjà, oui,
ça empêche pas de le maganer, puis de le massacrer, puis donner deux, trois claques.
Toujours
ça...
avec amour. Ouais.
On l'aime, puis on le connaît aussi. Ben oui. Un peu au moins. Là.
Un dernier sujet avant de terminer. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de Marc-André Lucien, qui nous a quittés cette année, qui était un critique respecté, aimé des lecteurs, mais aussi de ses collègues. Marc, je sais que
ouais,
tu avais...
Moi, c'est un ami très proche. Quelqu'un que j'aime depuis toujours. On avait... ça allait au-delà du cinéma, évidemment, mais comme critique, puis Denis en parlait plus tôt, c'était quelqu'un qui était bienveillant. C'est ça. Lui, il était bienveillant. C'est pas trop ton genre de critique, mais lui, il était bienveillant.
Il y avait de quoi donc, derrière.
Mais c'est ça. Oui. Mais il était érudit. Oui, il connaissait son cinéma, par exemple. Je veux dire, moi, j'ai fait le tour de sa collection de DVD. Il y a tous les films de Denis. Je veux dire, je pense qu'il y a des cinéastes qui auraient intérêt, des fois, à trouver... peut-être que certains de leurs films, ils ont pu un court-métrage. Lui, il y avait tout. Là, il gardait, là, il y avait des en VHS.
Où est rendue cette collection?
Ben oui.
chez nous.
Mais je me souviens des murs. Je l'avais vu en Zoom, là.
Il y a des murs et des murs chez nous. Là, il y avait déjà un mur, puis là, il y a un mur. En tout cas, il va avoir un peu de cinémathèque, et bref. Mais c'est ça. C'était quelqu'un qui... C'était sa passion, c'était sa vie. Je veux dire, il prenait ses journées de congé, c'était pour aller voir des films. Il venait à Cannes, même quand il n'était pas supposé travailler. C'était ça. Puis quelqu'un, je pense, c'est Kevin Laforêt qui disait, c'était un peu notre Roger Ebert, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté accessible, pas du tout élitiste.
Rassurant.
Oui, peut-être que c'était pas quelqu'un qui avait des opinions tranchées. Il était dans la nuance, mais c'est ce qu'appréciaient beaucoup de lecteurs. Et beaucoup de cinéastes aussi qui me disaient... Moi, il y a des cinéastes qui m'ont écrit. Puis, ce que j'appréciais chez lui, par exemple, il a pas parlé de mon dernier film. Je pense qu'il l'a pas aimé. Il ménageait des fois les susceptibles. C'était un gars super gentil. Mm-hmm. C'était ça. Il était ça. Puis bon, il nous manque, là, c'est clair. Ouais.
Manon?
Oui, ben c'est ça. C'est la même chose. Ben, j'étais pas aussi proche de Marc-André que Marc l'était. Ouais. Mais quand même, on s'appelait Chéri. C'était nos petits surnoms. Lui et moi, c'est Darling. Mais bref, on a fait des voyages à Los Angeles, à New York. On a fait couvert le Festival de Cannes, Carlo Vivari. On a fait Toronto, évidemment. Donc, ça crée des liens. Parce que, bon, les Québécois, on est très grégaires. Donc, c'était notre outarde en chef.
Oui, c'était l'organisateur.
C'était l'organisateur. Oui. Après les films, là, après les conférences de presse, on va manger où, Marc-André? On va à tel resto. Tac, tac, on le suivait. C'était comme ça, on était perdus dans Paris. Marc-André, il avait une boussole, un GPS interne. Let's go, on s'en va, on le suivait aveuglément. Moi, j'avais beaucoup de respect pour le journaliste et le critique qu'il était. Et j'avais beaucoup d'affection pour l'homme aussi. Parce que, tu sais, pour arriver à séduire les cinéastes, les producteurs, les acteurs, tout le monde, là. Les lecteurs, les collègues, les confrères aussi, ben, c'est un exploit en soi. Mais c'est ça, il y avait cette bonté-là en lui que certains pouvaient trouver beige, mais je ne sais pas, parce que des fois, on s'est jamais poigné, mais des fois, je dis, oh, comment Marc-André, tu es tout généreux, puis faisait. C'est comme ça.
La demi-étoile qualité Québec. Moi, je le raillais des fois avec ça.
Je suis d'accord avec le mot rassurant. Là,
mais c'est ton antithèse, disons.
Un peu, mais au niveau professionnel, mais on voit bien qu'au niveau humain, c'était quelqu'un de facile à aimer, qui te rassurait. Quand j'étais dans mes journées de promotion, tu savais que même si Marc-André n'avait pas aimé ton film, tu vas passer une entrevue bienveillante encore. C'est des mots là, qui ont pas l'air très puissants comme ça, là. Mais c'est vrai que ça rassurait. C'est vrai que moi, j'ai vécu avec lui un peu des épisodes de connexion dans des aéroports. L'année passée, on revenait de Berlin. Il avait perdu sa valise, comme nous tous. Puis je pense que c'était une de ses premières fois. Puis il était étrangement plus nerveux que nous autres.
Oui, oui, oui.
Puis je l'avais accompagné au comptoir des valises. Puis on s'écrivait à la maison, « T'as-tu ta valise? » Puis il était bien nerveux. Tu sais... Au niveau humain, tu vois que tout était là. Ensuite,
ça quand... m'est arrivé, ça, avec Marc.
Oui, oui, on a vécu ça.
Quand
tu
faisais des entrevues avec Odile Tremblay ou Nathalie Petrovski, oui. Là, il y a un certain sens du danger. Tu sens que tu joues à un jeu. Ils vont-tu te dire en pleine face des choses qu'ils n'ont pas aimées? Là, t'es sur tes gardes. C'est excitant. Moi, j'aime ça. Il y a un sens... Marc-André, c'est un peu comme aller jaser avec ton parrain, ton mononcle. Tu sais qu'il va te protéger. Fait que des fois, c'est essentiel. Là.
Puis il était respectueux aussi.
Très respectueux.
Mais c'était un bon mentor aussi. Moi, je dis, quand j'ai commencé, j'avais l'air d'un chevreuil avec des phares d'en face. Puis ça a été une des premières personnes qui m'a aidée. Tu sais, je me souviens, mon premier camp, je pleurais, puis j'y écrivais, puis il prenait de mes nouvelles pour savoir si j'allais bien. Il y avait ce côté-là, je pense, tu sais, de vouloir...
Il n'était pas en compétition.
Non,
lui,
jamais. Puis de vouloir transmettre aussi, tu sais, que je puisse... pas répéter les mêmes erreurs puis faire mieux la prochaine fois. Moi, je pense que c'était quelqu'un qui voulait nous guider pour qu'on arrive à notre chemin avec le moins d'embûches possible. Ben, Marc-André, où que tu sois, tu nous manques beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Marc Cassivi, Manon Dumais, Denis Côté, merci et longue vie à la critique.
Merci.
Merci, Catherine.
Merci d'avoir été avec nous. Pour réécouter les épisodes, allez sur Spotify, Google Podcast, Apple Music et sur les plateformes de Cogeco. Sortez le Popcorn est une production de Push-Up Media, à la réalisation Fred Perron, au mix sonore Olivier Couture, à la recherche et à la production de contenu Stéphanie Gagnon, à la coordination Béatrice Langlois-Bété, au design graphique Simon Lagneau, à la vidéographie Studio Campus, aux communications numériques et promotion Sandrine Couture. C'était votre animatrice Catherine Beauchamp qui vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortez de Popcorn.